19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre et merci d'être avec nous. Ce soir nous démarrons cette émission de 19h à 20h. Vous le savez, comme chaque soir, c'est votre nouveau créneau, c'est aussi votre créneau. Vous pouvez commenter, analyser et décrypter l'actualité au 01 53 48 3000. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Nous ouvrons l'antenne avec, vous savez, au sommaire de cette émission, Lampedusa avec la présidente de la Commission européenne qui est accompagnée de la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, Giorgia Meloni. Alors elle a présenté son plan d'urgence pour aider Rome. On en parlera tout à l'heure. Et finalement, la question qu'on pose, finalement, la France peut-elle aussi contribuer à tout cela? Et puis, est-ce qu'elle peut sortir de cette crise migratoire? On en parlera. La crise migratoire, c'est aussi, vous savez quoi? Eh bien, l'extrême droite qui profite de cette crise des migrants pour faire campagne. C'est les élections européennes qui sont en marche, ça y est, on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi de la montée de l'extrême droite, vous savez, qui est aux portes de l'Elysée. Nous en parlerons parce que je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Parmi les pays européens, on a un peu plus de 20% quand même avec cette montée de l'extrême droite. Ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire que ce n'est pas négligeable. Ce qui veut dire surtout que la France est en train de vivre cela. Nous parlerons aussi du président des Alpes-Maritimes qui lui alerte même les difficultés d'accueil des migrants. On en parlera. On reviendra sur le sujet du harcèlement scolaire parce que ça c'est hyper important chers amis. Des parents qui ont décidé de porter plainte contre TikTok. Et puis surtout, le volet qui m'intéresse, moi, l'angle qui m'intéresse, c'est surtout les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts à interdire à vos enfants, les collégiens et les lycéens, les réseaux sociaux, justement pour qu'ils ne sombrent pas dans l'envers du décor? On en parlera tout à l'heure au 01 53 48 3000. D'ailleurs, je vous attends au standard pour une seule question que je vous pose. Êtes-vous prêts, vous, parents, à interdire les réseaux sociaux à vos enfants, qu'ils soient au collège, au primaire ou au lycée? Et bien venez en parler au 01 53 48 3000. Nous parlerons aussi des sénatoriales parce que figurez-vous, c'est dans quelques jours et c'est parti, ça y est. À la fois nous recevrons par téléphone un invité mais également aussi un autre candidat qui se présente au sénatorial. On en parlera tout à l'heure, on en parlera demain, on en parlera après-demain puisque c'est le sujet qui concerne l'élection sénatoriale, on est en plein dedans. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, vous le savez, c'est comme chaque soir d'ailleurs, presque, notamment. Et l'interview de ce soir, justement, on va aller direction Suresnes et on va surtout aller s'intéresser à un candidat qui, lui, est conseiller municipal de Suresnes, président de citoyens responsables du parti politique Underground. Voilà que ça claque, vous avez vu. Il s'appelle Valérie et il est avec nous, justement, en direct. Valérie Barny, bien sûr. Bonjour, monsieur Valérie Barny.
Bonjour Adil, bonjour tout le monde, bonjour Beurre FM, bonjour tous les auditeurs, bonjour à tout le monde.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Justement, on va parler des élections et sénatoriales qui ont lieu le 24 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors vous parlez vous portez une liste d'élus de citoyens. Vous pouvez nous en toucher quelques mots justement sur le département du 92?
Bien sûr, alors c'est une liste, nous avons deux élus conseillers municipaux justement de la ville de Suresnes. Et puis, parce que vous le savez, pour faire une liste pour les sénatoriales, il faut 9 candidats, donc avec la parité, femmes et hommes. Pour les 7 autres candidats, ce sont des citoyens, comme j'aime dire, de bonne moralité, engagés, donc issus de la société civile. Des personnes qui sont entrepreneurs, qui travaillent dans le service public, des personnes qui sont de bonne moralité, c'est ce que j'aime dire. Voilà.
Vous dites d'ailleurs, je vous fais part de ma candidature aux élections sénatoriales dans le département des Hauts-de-Seine. Vous dites, la fraternité est le nom de notre liste avec Oulfa Hanafi. Qu'est-ce que vous entendez par fraternité? Vous pensiez que ça manque un peu de fraternité justement, Valérie Barny?
Bien sûr, parce que moi je pense qu'au départ, le socle même et le ciment même de notre République, et on le sait, c'est liberté, égalité et fraternité. Et aujourd'hui, on se rend compte que, je dirais que c'est l'atmosphère ambiante aujourd'hui dans notre pays qui est le résultat de tout ça, pour le coup, du séparatisme aujourd'hui, parce que je pense qu'on est plus dos à dos que visage à visage, vous voyez. Et ça, je pense que ça manque de fraternité. On essaye de diviser les gens, on essaye de stigmatiser une certaine classe de la population, alors que je pense qu'on devrait tous vivre ensemble, parce que nous sommes dans une république. En France, nous avons toujours prôné les droits de l'homme, donc c'est vraiment des lettres de noblesse, et je pense que ça se perd.
Voilà. Ça se perd, et vous dites notamment que vous êtes le président de Citoyens Responsables, un parti underground. Ça veut dire quoi un parti underground aujourd'hui quand on est, vous savez, dans des partis traditionnels, classiques ça veut dire quoi pour vous, underground, surtout dans les Hauts-de-Seine?
Ah bah oui, alors moi, pour quand on dit underground, c'est-à-dire
quand
que...
Quand on me dit underground dans le 9-3, je l'entends et on comprend, mais le 9-2, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah le souci qu'on a, c'est qu'on a une image aussi du 92 où c'est des petits bourgeois, tout le monde vit bien dans le 92, alors que c'est faux. Dans notre 92, on a des quartiers populaires où les familles souffrent, où les familles ont du mal à finir les fins de mois, où les familles ont du mal à remplir leur frigidaire. Voilà, l'impact et les problèmes sociaux que vivent certains départements qu'on pourrait considérer comme plus défavorisés, ils impactent aussi notre département, et ça beaucoup le mettent sous silence, parce qu'effectivement on a la Défense qui est un des centres d'affaires les plus riches, en tout cas qui génère le plus d'argent, ce centre d'affaires d'Europe. Et on se dit peut-être que ça aide aussi les populations qui souffrent. Et non, c'est pas vrai. Et voilà pourquoi mon engagement est celui-là. Voilà.
Et celui-là, justement, il y a une phrase qui revient régulièrement dans votre acte, c'est « Où sont passés les 100 milliards dédiés à la politique de la ville ?»
Exactement. Ouais. Exactement. Parce que, alors, si je peux me permettre, Adil, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu 100 milliards. D'ailleurs, le président de la République ne cessait de le dire sur des plateaux, sur ses interventions, que où est passé tout ce pognon, en fait, en vrai, parce que il y a eu 100 milliards d'euros, plus de 100 milliards, exactement 148 milliards d'euros qui ont été distribués, si je peux me permettre, aux politiques de la ville, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les villes en soi, pour pouvoir justement aider les populations qui souffrent, parce qu'on le sait aussi, sur nos territoires, il y a la désertification dans toutes ces quatre caractéristiques, c'est-à-dire de la santé, des aires médicales, aujourd'hui on nous parle aussi d'écologie, mais comme j'aime dire, l'écologie pour moi c'est un modèle pour les riches, les pauvres ne veulent pas parler d'écologie, nous dans nos quartiers c'est la malbouffe qui domine, toutes ces choses-là font que ces 100 milliards d'euros, plus de 100 milliards d'euros qui sont destinés à la politique de la ville, où ils sont passés? Et moi j'estime qu'ils n'ont pas été... ils n'ont pas été à l'endroit des Françaises et des Français qui en avaient besoin, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos quartiers souffrent davantage et de plus qu'hier, en fait. Et ça, c'est pas normal. Et j'aimerais dire aussi, Adil, que c'est plus de 100 milliards d'euros qui auraient dû être destinés à la politique de la ville. Ils ont été distribués par les élus. Alors moi, je mets pas l'opprobre sur les élus des différents territoires, mais c'est une réalité et c'est quelque chose qui dure depuis plus de 20 ans, donc même plus que ça, même, je pense. Donc aujourd'hui, c'est là où je m'interroge, et je m'interroge aussi sur le Sénat qui doit être le contre-pouvoir, l'antichambre, qui doit être un contrôleur en tout cas de toutes les dérives.
Bah justement, si vous êtes candidat au sénatorial, si vous êtes élu, vous vous dites, vous, la voix du peuple qui souffre, vous parlez de prévention, d'éducation, de nos anciens, de formation, d'emploi, comment vous voyez votre rôle dans tout ça, Valérie Barny?
Alors moi, j'espère déjà être la voix, comme je le dis si bien, la voix du peuple qui souffre, parce que on se rend compte aussi qu'on n'a pas de voix. Il n'y a pas de personne au Sénat qui représente cette population qui souffre, comme beaucoup diraient les petits gens, voyez. Et donc moi, en tout cas, si demain... je deviens sénateur, je défendrai, je serai vraiment le défenseur de tous les droits de toutes ces personnes qu'on stigmatise et qu'on discrimine. Et c'est ça l'idée, en proposant des amendements, en proposant des textes de loi, et surtout en étant le contrôleur de toutes ces dérives, parce que des dérives de gouvernementales, parce qu'on le sait aujourd'hui, avec le 49-3, à chaque fois il passe en force, sans écouter la population, et sans écouter les mots MAUX et la souffrance des français, ça peut plus durer. Je pense que le Sénat ne joue pas son rôle à cet endroit-là. Et ça c'est vraiment abîmer notre démocratie et notre république à terme. Et puis ça abîme davantage aussi. Et là, il faut aussi protéger nos enfants et protéger nos anciens. Et là, on n'est pas du tout dans ce paradigme. Donc c'est pour ça que si demain je deviens sénateur, en tout cas le dimanche 24 septembre, je serai alerte à tous ces, à toutes ces problématiques et toutes ces dérives de l'État. Et on peut le dire aussi sur les gilets jaunes. C'est aussi la même chose. Lorsque toutes ces lois sont passées tout ce tabassage médiatique, que ça soit le tabassage médiatique, mais aussi le tabassage des manifestants et des gilets jaunes que je porte vraiment dans mon cœur, parce que ce mouvement social est un des plus gros mouvements depuis 50 ans et qu'on n'a pas respecté, on a éborgné, enfin l'État a éborgné, c'est une réalité, hein. L'État a éborgné, il a enfermé, il a mutilé, et sans que personne ne puisse les contrôler ou bien même les condamner. Et ça, à un moment donné, c'est juste pas possible. Je pense qu'on aurait dû passer par un référendum sur tous ces genres de problématiques sociétales. Voilà, c'est ça.
Merci Valérie Barny, vous êtes conseiller municipal à Suresnes et président de Citoyens Responsables Parti Politique Underground. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Barny. Merci, bon courage pour ce week-end, effectivement, parce que je crois que les choses, il y a un enjeu, en tout cas, pour ces sénatoriales, hein, on peut le dire. Hein.
Et puis, bien sûr, il y a un enjeu. Et puis, comme j'aime dire, c'est une élection qu'on essaye de passer sous silence, mais c'est une des élections les plus importantes de notre République, parce que c'est celle-là même qui contrôle toutes ces lois liberticides que le gouvernement, en tout cas le Parlement, essaye de mettre en place systématiquement. Donc j'invite vraiment tous les élus et tous les grands électeurs du 92 des Hauts-de-Seine qui sont de bonne moralité de voter la liste Fraternité le 24 septembre lors des sénatoriales.
Merci Valérie Barny.
Voilà.
Merci Valérie. Merci. Autre sujet, vous savez, on parle toujours de sénatorial, c'est celui du côté du 93 avec Ahmed Lawadj. Bonjour Ahmed Lawadj, parce que je veux qu'on traite des sénatoriales avant de lancer le face-à-face. Ahmed Lawadj, bonsoir, bonjour.
Bonsoir Adil.
Comment
bonsoir
ça va?
Bonsoir à tous les auditeurs et nos amis.
Votre collègue est déterminé, vous êtes autant déterminé que lui. Vous, écoutez, vous êtes candidat, donc tête de liste aux élections sénatoriales avec une liste qui s'appelle Confiance en l'avenir sur le département du 93.
Tout à fait. Bah écoutez, confiant bien sûr, on est toujours confiant quand on part dans une élection. C'est pour ça qu'elle s'appelle Confiance en l'avenir. Non, bien sûr, on a depuis un an, constitué cette liste, mais on a rencontré beaucoup, beaucoup d'élus hein, dans ce département. On a pu mettre en place un programme sur lequel on pensait que c'était important de proposer ça aux électeurs pour le 24 septembre prochain. La priorité des priorités pour nous, c'est d'avoir des élus de proximité. Comme l'a dit le collègue là, qui se présente aux élections sénatoriales, aujourd'hui les sénateurs sont, on va dire, loin de ce qui se passe un petit peu dans les collectivités territoriales et les territoires. Nous, ce qu'on fera, enfin, si on est élu, bien sûr, dimanche, c'est qu'on sera déjà à même de pouvoir rencontrer et de faire des permanences dans toutes les collectivités territoriales pour être le levier entre l'État et les collectivités territoriales et d'essayer aussi d'amener la possibilité de soutenir et d'aider les collectivités territoriales et aussi par la même occasion d'essayer de soutenir les élus dans le cadre d'une loi qui serait le statut de l'élu, le conseiller municipal, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le maillon faible entre guillemets, même si c'est le maillon fort, parce que c'est eux qui sont directement.
Ce sera un des chantiers.
Ça sera un des chantiers, bien sûr, le statut de l'élu, parce que pour moi c'est important que les élus des territoires, comme je disais, qui sont en direct avec la population, avec tous les postes d'élus qu'on a aujourd'hui, maire, conseil départemental, conseil régional, député, sénateur, ministre, etc., etc. Et donc je pense que là-dessus, il faut revoir. Mais ça se fera, bien sûr, en étroite collaboration avec les élus pour essayer de faire en sorte de proposer une loi au Sénat.
Bon, donc Ahmed Lawadjké, donc candidat pour la tête de liste aux élections sénatoriales, ce week-end d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, la liste Confiance en l'avenir. Bon courage aussi, Ahmed Lawadjké.
Merci beaucoup.
Vous restez avec nous parce que justement, on va lancer le face-à-face avec nos débatteurs influenceurs juste après la pause. À tout de suite, ne bougez pas. Et je vous attends aussi notamment au 0153-48-3000 pour le harcèlement scolaire. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, c'est parti avec le face-à-face.
Les Informés, le face-à-face.
19h21, vous savez, le face-à-face avec Ahmed Lawedj, qui est candidat au sénatorial, je le disais tout à l'heure, en Seine-Saint-Denis. Rebonjour Ahmed Lawedj.
Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices.
Ah, exactement, à vos côtés Ménad Ouchenir, ancien élu, mais également aujourd'hui consultant numérique. Bonjour mon cher Ménad.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Ça va
et vous?
Très bien, face à vous, un journaliste également, Ibouba. Bonjour Ibouba.
Bonjour Adil Farkan.
Bien dans le micro, attirez-le vers vous. Hein.
Bonjour Adil Farkan.
Vous connaissez la radio pourtant. Hein.
Ah ben oui, bien sûr. Bah oui. Donc on essaie de s'emprunter un tout petit peu. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, mais bon, voilà.
Exactement.
Ça sera une bonne entrée.
Mais ça fait plaisir, hein. Toujours aussi classe. Hein.
Le plaisir est partagé avec
la
Adil
classe,
Farkan.
Hein. La classe.
Exactement.
Messieurs, à Lampedusa, ça sent pas bon. Ça sent, c'est même d'ailleurs la crise, c'est l'urgence, c'est l'extrême droite qui s'empare évidemment du sujet. Certains parlent beaucoup des élections européennes. À Lampedusa, la présidente de la Commission européenne, donc c'est-à-dire Madame Ursula von der Leyen, et bien justement accompagnée de la présidente du Conseil italien, Madame Giorgia Meloni, a présenté un plan d'urgence. Sauf que, vous savez quoi, Darmanin lui rappelle un certain nombre de règles, Gérard Darmanin, pardon, le ministre de l'Intérieur, mais surtout il dit que la crise migratoire, et bien forcément, là, désormais, on voit les choses qui se compliquent. Qui veut prendre la parole? Allez, Ahmed Lawedj.
Bon, ben non.
Compliqué tout ça.
Non, mais
c'est explosif désormais.
C'est compliqué par rapport aux
surtout
humains,
que c'est explosif là, ça y est.
Aux humains qu'on aujourd'hui qui sont aujourd'hui malheureusement dans des situations et qui fuient leur pays parce que soit pour la faim, soit pour trouver, je dirais, autre chose de ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur pays. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, la présidente du Conseil italien elle s'est pris une grosse gifle parce qu'elle avait dit lors de son élection qu'il n'y a plus personne qui serait débarqué et elle mettrait des murs pour pouvoir faire stopper les bateaux.
Donc un échec.
Voilà, donc c'est un échec. La présidente de la Commission européenne, bon, bah, elle est venue, elle a fait aussi il y a 3 mois. Une visite en Tunisie et en Libye pour aider ces pays à ne pas envoyer ou ne pas laisser passer des migrants pour aller en Italie ou ailleurs. Et bon, ça aussi, c'est un échec. Maintenant, la question humaine, elle est là.
Sauf que là, on assiste quand même à des images de chaos qui placent l'Europe.
De toutes les façons, ils auront de plus en plus, avec le réchauffement de la planète, de plus en plus de migrants qui seront au bord des pays qui sont au bord de la Méditerranée. Et donc, la solution aujourd'hui, c'est de trouver vraiment une solution qui permette d'être humain dans un premier temps, parce qu'on a quand même des enfants, on a quand même des femmes.
Des femmes enceintes aussi.
J'ai cru comprendre que Gérald Darmanin a dit qu'ils allaient voir cas par cas concernant les situations pour l'asile, enfin, permettre l'asile politique et il s'en tiendra à ça. Moi, j'ai pas la solution parce que c'est une question qu'il faudra envisager, mais au niveau de l'Europe. Mais je pense que cette situation-là doit être avant tout humaine. Qu'une situation politique comme certains font aujourd'hui, et notamment Marine Le Pen, qui se sert de ça pour pouvoir tirer les ficelles du jeu, quoi.
Ménad Ouchenir, on fait un tour de table et ensuite Ibouba, effectivement, et on parlera de la France, puisque vous l'avez abordé, Ahmed Lawedj, la France qui, effectivement, où le président des Alpes-Maritimes alerte les difficultés d'accueil. On en parlera. Ménad Ouchenir.
Alors, je rejoins Ahmed sur un point, c'est que on est en présence de femmes et d'hommes et d'enfants, même très jeunes, qui souhaitent rejoindre l'Europe, l'Union européenne, au territoire. Et je vais plutôt parler, moi, du traitement médiatique qui est fait. Je suis à chaque fois assez atterré de voir comment on traite le sujet comme un bloc monolithique, les migrants dans des bateaux, etc. Mais c'est très matériel et complètement déshumanisant. La première des choses, effectivement, ce serait de réhumaniser tout ça, et je pense que les réflexions et les solutions envisagées ne seraient pas les mêmes. Ça fait le lit de l'extrême droite tout le temps, de toute façon, ils n'ont que ça. Et dans les faits, ils suscitent, ils travaillent sur les peurs que ça pourrait provoquer chez certains de leurs électeurs. Mais je crois même que maintenant, l'électorat, les gens, de manière générale, sont malheureusement ou pas, mais presque accoutumé à ça, et ça fait de moins en moins peur finalement. C'est juste qu'on déplore la situation. Je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on continue d'humaniser le problème. Après, les solutions, en fait, On les connaît, elles sont pas légion, mais on les connaît. Et tout d'abord, il y a la capacité donc d'agir sur les pays d'origine. On sait très bien que les gens qui quittent leur foyer du jour au lendemain, qui montent dans un bateau où ils ont une chance sur deux de pas arriver en vie, c'est pas par confort ou parce qu'ils s'attendent à trouver ici un Eldorado. Quand vous en arrivez à faire ça, Adil, et à quitter votre pays dans ces conditions, c'est parce que vous n'avez littéralement plus rien à espérer de la vie là-bas. Donc là aussi, cette espèce de rhétorique d'une certaine, alors pas que de l'extrême droite d'ailleurs, même d'une certaine droite, je dirais, de manière un peu plus provocante, de dire ils viennent nous piquer nos richesses, nos boulots et j'en passe.
Parce qu'on a entendu parmi certains migrants qu'on veut venir notamment en France parce que les soins c'est gratuit et parce qu'on se fait soigner et parce que
oui, mais si quelqu'un est malade, on le soigne. Voilà, en France, c'est la grandeur de la France, ça fait partie des choses qui nous différencient d'autres pays, y compris des pays très développé, puisqu'on parle des migrants qui viennent se faire soigner avec l'AME, et pourquoi pas, parce que quelqu'un de malade sur un trottoir coûte beaucoup plus cher que quelqu'un en bonne santé sur un trottoir d'une manière générale. Mais je vous assure que vous allez dans des pays très développés, des pays amis qui ont des systèmes de santé en carton, et des pays très occidentaux aussi, pour pas en citer, vous avez ces problèmes-là, et certains viennent aussi se soigner chez nous. C'est plus confidentiel comme phénomène, mais je vous assure que c'est quelque chose qui existe, que certains revendiquent. Donc voilà, simplement réhumanisons, ayons un traitement médiatique plus humanisant, et sur les solutions, bah, effectivement, pour moi, sans rentrer dans les détails, ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et il s'agit de faire ce qu'on peut, et de manière la plus adroite possible, et avec les populations et les diasporas qu'on a dans nos pays, pour stabiliser, faire en sorte d'arrêter de créer les conditions du départ là-bas. Voilà.
Et Bouba, justement, parlons-en, cette crise des migrants. Et l'afflux, notamment.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'extrême droite doit quand même faire un effort de flirter un tout petit peu avec l'humanité, afin de sentir ce que c'est vraiment la vraie valeur.
Vous leur demandez de flirter ?
Non, oui, de flirter avec ouais. La réalité. Avec la réalité, sujet, je veux dire. Ouais. Donc, parce que si c'est le collègue.
J'ai l'impression que les élections européennes, c'est un peu parti sur le sujet des migrants.
Oui, mais absolument. Ah bah, je crois que ça doit être. Ce problème doit être traité.
Immigration.
Voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, ce problème doit être traité avec une certaine acuité, puisque vous le savez très bien. J'ai parlé d'humanisme plutôt, donc c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'extrême droite s'en fout totalement donc de ces gens-là qui sont en train de mourir en mer. Et c'est pas de leur gré de tout laisser par exemple chez eux pour venir ici. Et en plus, ce qu'ils font de plus en plus aujourd'hui, l'extrême droite met l'accent donc surtout sur sur les zones frontalières du Sahel, donc les Africains du Sahel notamment. Mais je me pose la question à savoir, est-ce que c'est fait exprès? Ou bien c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays, leur propre pays, qui est la France, notre pays. Est-ce que c'est parce que l'histoire de l'immigration est méconnue? Ou bien c'est parce que, justement, ils vont continuer toujours à faire un travail psychologique sur donc, la France d'en haut?
C'est pas faux.
Non, je vous assure que c'est un problème que je me pose. Si aujourd'hui on connaît l'histoire de la France, on sait que la France aujourd'hui donc a le cinquième... comment ça s'appelle, cinquième pilier mondial donc des richesses en or. Mais où est-ce que la France produit de l'or? Est-ce qu'il y a de l'or en France? Il n'y en a pas. Mais la France va en Afrique, la France pille l'Afrique, la France prend ses ressources en Afrique. Et vous dites à ces gens-là, vous ne pouvez pas venir. Ces gens-là, ils sont en train de vivre de misère. Ils ont une page de vie quasiment dénaturée. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien du tout. Les gens vont dans leur pays pour exploiter des trucs et après, ils n'ont rien. Et vous ne voulez pas voir ces gens-là.
Mais ce que soulève Ibouba, c'est
un problème.
D'un côté, on a
c'est
les migrants d'Afrique.
Il faut qu'on humanise les choses et qu'on essaie de
et les discours,
aujourd'hui,
évidemment,
nous vivons la mondialisation, excuse-moi.
Et on a quand même deux sons de cloche, c'est-à-dire qu'on a ce son de cloche lorsque c'est des migrants africains, ça pose problème, et lorsque c'est des migrants de l'Est, ça ne pose pas de problème.
Y a clairement un traitement différencié de ces deux types
de
migration, alors que les causes souvent sont les mêmes, hein, des guerres, des bombardements, etc.
Mais
là où je ne suis pas tout à fait de l'avis d'Ibouba, c'est que moi, je ne veux pas entendre parler d'une relation transactionnelle génial. Ils ont pris notre or, donc on peut aller chez eux. Non, non.
Oui. Non, mais c'est dangereux comme
discours, c'est ça. Non, c'est pas du tout dangereux.
Je veux pas qu'on tombe dans le piège du entre guillemets. Oui, alors il y a eu par le passé, à l'époque coloniale, des ressources.
En gros, vous avez fait ça, nous on fait ça.
Je suis navré, mais
on n'est pas là. Alors corrigeons.
Je veux dire,
parce que ça peut être un discours dangereux. Je veux dire, vous nous avez.
Non, c'est pas dans ce sens.
Je peux terminer.
Ce n'est même pas dans ce sens-là.
Justement, c'est comme ça, moi, en tout cas, je l'ai interprété, peut-être nos auditeurs. Je dis simplement que dès lors que dans des pays, les conditions sont plus vivables, l'humain est rationnel. Et je vais vous dire, si c'était demain chez nous, ici, qu'on avait des bombes et de la famine et pas d'eau potable et pas d'espoir, etc., on se barrerait parce qu'on ne voudrait pas mourir avec nos familles. C'est tout, monsieur, c'est humain. Mais simplement de dire, on va aller dans un pays qui nous aurait, par le passé, confisqué des ressources. Bon, pour moi, c'est là que ça s'arrête, en fait.
Monsieur, je vous assure que ce qui se passe aujourd'hui, si c'était les Européens qui étaient en train de mourir en mer, ça n'allait pas se passer comme ça. Je vous assure que ça n'aura pas la même lecture. Non, il y a un problème qui se pose et il faut oser dire la vérité. C'est pas tous les Français qui sont comme ça. C'est pas l'extrême droite. Je m'adresse à ces gens-là exactement pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'immigration et pourquoi l'immigration. La France même a été construite sous ce poids de l'immigration. Mais il faut
mais
pas.
Mais c'est dangereux. Ce qu'il dit Ménade, en gros, c'est que la France a fait ça, donc nous on peut se permettre ça.
Non. Moi je parle pas. C'est pas cet état d'esprit-là. Je ne suis même pas dans cet état d'esprit.
C'est bien corrigé.
Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a certains politiques qui aujourd'hui sont en train de faire un travail psychologique sur la France de bas ou la France d'en haut pour les faire comprendre que bon, voilà, ce sont les immigrés, ils vont tout nous prendre. Mais aujourd'hui, l'immigration en France, c'est quoi? C'est 5%, je sais pas, 10%. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il faut arrêter de jouer au feu. Le feu du problème est que il y a une réalité qui est là et il faudra en parler. Il est temps d'en parler.
Il faut dire la vérité aux Français. C'est là où je dis que c'est explosif.
C'est exactement ça. Il faudra en parler et il faut dire la vérité aux Français.
On met les pieds dans le plat.
On en revient au traitement médiatique.
Qu'est-ce qu'on fait en France?
Il y a un effet loupe.
Au-delà de l'effet loupe, etc.
J'ai lu la une de je ne sais plus quel quotidien national avec un bateau et des gens comme ça. Ça qui arrivait littéralement, d'ailleurs presque comme des vagues. La photo était, ça c'est la magie des photographes de presse, suffisamment bien faite pour vraiment littéralement montrer une vague de migrants parce qu'ils étaient sur un bateau. Donc simplement, ce traitement médiatique de faire loupe sur les migrants juste avant les sénatoriales, pardon, et puis juste avant les élections européennes, enfin en tout cas 6 et 9 juin, juin 2024, pardon.
Dans quelques mois.
Mais c'est clairement, c'est quoi effectivement.
Sauf que la France, est-ce qu'elle a anticipé? La France, comment elle va gérer ce dossier brûlant, explosif? La France, Ibouba soulève quand même des questions qui divisent quand même les partis politiques.
La France gère l'immigration depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire.
Gérald Darmanin a donné le ton.
À chaque fois, avant lui, on avait d'autres ministres de l'Intérieur.
On aura de plus en plus, par rapport au réchauffement de la planète, de personnes qui vont quitter l'Afrique. Voilà. Sauf, je vais vous dire une chose, il y a peut-être un déclin, moi je l'espère, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements africains sont en train de changer de plus en plus. Les peuples commencent à se dire stop. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que France, à l'époque, gérer quand même quelques pays, faut pas l'oublier, notamment dans des conditions.
Moi j'ai pas
encore toutes les informations.
Elle gère
je
toujours.
Je ne dois pas m'avancer parce que je connais pas très bien le dossier. Mais il y a eu quand même des choses qui se sont passées à un moment donné. Et donc c'est vrai que là-dessus je peux comprendre qu'à un moment donné on peut dire attendez. La France a fait aussi quelques dégâts en Afrique. Mais sur l'industrialisation, vous remarquerez quand même une chose, c'est que le ministre de l'Industrie a indiqué qu'on a besoin d'une main-d'œuvre migratoire et d'immigrés en France, notamment, je prends les sans-papiers aujourd'hui qui travaillent et qu'il faudra régulariser. Et il faut le savoir,
absolument,
qu'il y a 57% des Français qui sont favorables à ça. 57%. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'à un moment donné, si on veut vraiment faire en sorte d'avancer dans cette optique migratoire, c'est-à-dire régulariser ceux qui travaillent depuis un certain temps. Parce que depuis 10 ans, il y en a qui travaillent avec des faux papiers, il faut le savoir. Et dans toutes les grosses boîtes, hein, Bouygues, Eiffage, ceux qui ont construit les Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. Donc, et il y aura besoin, et si le ministre le dit, c'est qu'à un moment donné, on aura besoin d'une main-d'œuvre migratoire. Donc, ça, c'est une chose
La préfecture des Alpes-Maritimes va réquisitionner un terrain sur la commune de Menton, justement, pour accueillir des migrants, pour faire face à l'afflux des demandeurs d'asile. Comment on s'organise? Parce que, justement, le même président du conseil départemental, il s'exprime, lui, il dit, il alerte, il dit la difficulté à accueillir tous ces migrants-là.
Ah ben, il aura une difficulté parce qu'il
aura, il aura l'appui de l'État. Après, voilà. Je partage pas tout à fait la
difficulté.
On parle de ce qu'aurait fait la France auparavant sur le continent. Aujourd'hui, effectivement, comme disait Ahmed, les gouvernements changent. Récemment, là, il y a eu un accord de signé dans l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est un accord militaire signé par le Niger, le Mali et le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme dans la, donc, sahélien, dans la région du Sahel. Bon, une fois qu'on aura abattu le dernier terroriste, on n'aura pas réglé le problème du réchauffement climatique, par exemple. Et donc, on est sur un problème protéiforme. Maintenant, ces pays-là, pour beaucoup, avec des coups d'État souvent soutenus par la population, mais là aussi, on pourra en parler sur la désinformation qui y règne. Mais moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Parce que maintenant que, visiblement, il y a un certain peuple qui aurait soi-disant repris ses droits, eh ben, moi, j'attends de voir maintenant si ça va aller mieux. J'ai un petit doute. Et si ça va mieux, je vais voir si les populations vont y retourner. J'aurai un doute.
Je fais juste la dernière pause, Bouba, je vous donne la parole. Je lance la pause parce qu'on est très en retard. Hein, vraiment.
Absolument.
19h37. Je lance la pause et je vous donne la parole tout de suite après 0153483000 si vous souhaitez intervenir. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour ces migrants qui affluent et comment voyez-vous les choses à terme? Parce que c'est vrai, c'est un sujet qui nous concerne tous. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés avec Ibouba, enfin avec Mena Douchenir et Ahmed Lawedj. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, honnêtement, que doit faire la France? Que doit faire l'Europe? On parle de ce fameux pacte, on parle de ce fameux, évidemment, ce plan d'urgence avec la présidente de la Commission. Qu'est-ce qu'on fait, Ibouba?
Alors, écoutez, il y a un problème qui s'oppose.
C'est un sujet explosif,
il faut se regarder les yeux dans les yeux et pour en parler. Il y a une réalité. En fait, il y a une partie de la France, notamment de la droite.
Et je vous le dis, ça va être de plus, comme dit Ménage Ouchénia.
Oui, depuis des années et des années.
Les années donc, à venir, ça va être de plus en plus.
Oui, mais l'accent en général, donc à l'approche des élections en général, que ce soit européen, n'importe quelle élection, donc c'est toujours ce thème, ce sujet qui revient. Mais malheureusement, il y en a des Français qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ces immigrés dont on parle, et qui en octroie plutôt la carte de séjour. Mais allez-y, faites un tour dans les préfectures. Dans les préfectures, vous voyez des milliers de gens qui sont en général en préfecture. Et tous ces gens-là, ils payent minimum 300 euros pour avoir la carte de séjour.
C'est vrai.
Vous avez et combien y en a-t-il par jour? Et combien y en a-t-il par mois?
Et parfois les 300 euros.
Imaginez par exemple ceux qui sont en Afrique pour venir en France, il faudra payer le visa. Et le visa, vous le payez. C'est pas parce que vous payez, il y a plein de choses qu'il faut payer d'ailleurs. C'est des sommes colossaux. Hein. C'est 100 000 francs, c'est-à-dire à peu près 100 euros ou 200 euros que vous payez. Mais c'est 200 euros qu'on vous octroie le visa ou qu'on vous octroie pas, on vous le rend pas. Mais il y a combien de personnes qui y rentrent? Donc le fond du problème est qu'à un certain moment donné, il faudra dire aux gens, il faudra dire aux Français ce qui est. La France et l'Afrique, c'est une histoire, une autre histoire. Et il faudrait que les choses se fassent maintenant, dorénavant, que ça se fasse donc donnant et à pied d'égal. Sinon, ça ne passera pas.
Ibouba a lâché le mot. Revoir les relations France-Afrique, Afrique-France et d'égal à égal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais moi je pense que oui, bien sûr. Et bien ça, moi j'en suis totalement d'accord. Hein. Après, faut faire attention. Voilà, la seule chose, c'est que moi je rebondis sur ce que font aussi les médias des fois aussi. Voilà quoi, ils poussent le bouchon. Quand même.
Bah, le sujet il est là.
Voilà, quoi, ils disent comment tenir les frontières. Attends, les États-Unis n'ont pas pu tenir les frontières en Mexique. Non, la question c'est qu'il faut régler ces choses-là sur le plan humain, c'est-à-dire, et voir de quelle manière on résout ce problème. C'est ça qu'il faut. Et le problème, c'est que depuis 30 ans, 40 ans, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que la situation des gouvernants de part et d'autre, et les premiers qui sont aujourd'hui montrés du doigt, c'est malheureusement les pauvres gens qui arrivent dans les ports de Méditerranée. Et là, c'est eux, voilà, c'est pas qu'ils y sont pour rien, c'est que malheureusement, ils fuient la misère, et donc c'est un peu normal. Demain vous vous retrouvez ici en France et que vous avez plus de, il y a plus de centres commerciaux, il y a plus d'épiciers, il y a plus de restaurants, il y a plus de, et puis vous dites voilà, on va aller au Maroc,
il y a plus quelqu'un qui vient faire le ménage le matin,
ils vont tous aller au Maroc,
il y a plus quelqu'un qui prend le métro à 5h du matin, allez-y, faites le tour au métro à 5h du matin, vous allez se voir.
Par contre, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le plan migratoire, il faut faire attention que pendant le Covid, ceux qui étaient en premier plan, c'est quand même les gens qui étaient immigrés, hein. Faut pas l'oublier. D'accord ? Faut pas l'oublier. Exact. Et ça, je pense qu'à un moment donné, faut le dire.
Juste pour, avant de traiter le sujet.
Et bah, ça, simplement, je vais, ça me rappelle quand on parle réinventer les relations entre la France et l'Afrique, en tout cas entre les pays, certains pays occidentaux et l'Afrique. C'était le président tunisien le 22 juin dernier qui avait participé à Paris à un événement donc pour un nouveau pacte financier mondial. Il avait fait une référence.
C'est pas une référence.
Il avait fait une référence à la chanson de Laurel et Hardy. Et il disait dans cette chanson, on disait c'est toi le grand et moi le petit. Et il disait aujourd'hui il n'y a plus grand, il n'y a plus de petit, on parle tous d'égal à égal. Donc effectivement c'était c'est ce qui m'a fait penser quand on parlait de réinventer la relation. Il faut arrêter de considérer qu'il y a des pays grands et des pays petits. Ça n'a rien à voir dans les faits. Il s'agit effectivement de changer ce paradigme. Et je pense qu'on est dans la génération qui va effectivement permettre de faire évoluer ce paradigme.
Monsieur.
Exactement, c'est vrai. Monsieur Adel Farkan, moi je voudrais juste vous rappeler une chose. Faites le tour des métros à 5h du matin. Je vous assure, vous regardez.
Oui, mais on le sait.
Mais ce sont les immigrés que vous voyez. Les Français, ils sont en train de dormir. Et aujourd'hui, on dit à ces gens-là, par exemple, regardez la guerre de la France-Algérie. Mais ce sont les tirailleurs africains qui sont là. On leur interdit après le lendemain. On dit vous avez fait la guerre, mais vous n'allez pas défiler sur les Champs-Élysées.
Alors Ibouba, j'aimerais.
C'est un problème.
Mais oui, on est d'accord,
Voilà.
Ce petit sujet que je voudrais, parce que le temps file à une vitesse impressionnante. Il est 19h48. Le harcèlement scolaire, vous savez quoi? Un ado de 14 ans qui est soupçonné de propos homophobes. C'est aujourd'hui sur la ville de Alfortville, me semble-t-il de mémoire, absolument en plein cours. D'ailleurs, il a été interpellé en plein cours à Alfortville. Messieurs, vraiment le sujet concernant le harcèlement scolaire. Ça devient un vrai sujet aussi avec un vrai plan d'urgence parce que, y compris là, on a une famille, plusieurs parents, d'accord, qui ont décidé de porter plainte contre TikTok. Alors, messieurs, faut-il interdire finalement les réseaux sociaux aux gamins ? Je pose la question parce que on en est là aujourd'hui.
Je
fais un tour de table.
C'est quand même des sujets assez récurrents dans l'actualité. Est-ce que le problème c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que le problème c'est l'usage qu'on en fait ?
Absolument.
On peut parler de la voiture, on peut parler de plein de choses. C'est ce qu'on en fait et ça passe toujours. Et je quitte à me répéter hein, et passer pour un disque rayé, mais par l'éducation que les parents ont donnée aux enfants. Tous les enfants ne sont pas addicts à TikTok parce que certains ont des parents qui mettent des limites et d'autres ont des parents qui n'arrivent pas à faire respecter les limites. Voire pour certains n'en mettent pas. Donc on en revient toujours, c'est dépassés. Des enfants, c'est des sans doute ils sont-ils dépassés, souvent. Mais dans ce cas, on a la chance dans un pays où il y a des aides dans tout genre, ça va de la simple documentation à des dispositifs qui sont sponsorisés par l'État, si j'ose dire, à disposition. Donc ils ont des recours, les parents ne sont pas tout seuls. Donc interdire les réseaux sociaux, c'est pas possible. Matériellement, je vous le dis, c'est l'informaticien qui parle, on ne peut pas interdire un réseau social. Dans les pires dictatures, ils arrivent toujours à se connecter, les gars.
Absolument.
Donc en France, il n'y a pas de raison, vu la façon dont le réseau est construit, qu'on n'y arrive pas. Donc on ne pourra pas interdire. Par contre, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est investir dans l'éducation d'une génération qu'il s'agit de ne pas sacrifier, parce que les réseaux sociaux restent aussi une arme d'abrutissement.
Il me reste quelques générations. J'aimerais entendre Ahmed et Ibouba, s'il vous plaît, Ahmed Lavoie.
Non, mais bon, les violences,
quelques secondes.
Moi, je rejoins un peu Mélade. Les violences aujourd'hui scolaires sont de plus en plus fréquentes. Moi, je pense que là, c'est le devoir du ministre de l'Éducation nationale de prendre ça au sérieux en mettant des moyens nécessaires, notamment, moi je sais que quand j'étais en 6e il y a 40 ans, on avait des surveillants généraux, on avait des surveillants aussi qui étaient en place, on avait un conseiller pédagogique. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut renforcer ce lien avec ces élèves. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait des débats à l'intérieur, il faut qu'à un moment donné, que les jeunes ne viennent pas que pour venir se friter à l'école, mais venir apprendre. Et ça, il faut revoir toute l'action éducative dans les collèges, exact, et les lycées. Et tant qu'on n'aura pas trouvé ça, il y aura toujours ces mêmes problèmes. Et je pense qu'il faut mettre les moyens. Moi, je pense que l'excellence aujourd'hui de l'éducation, ça doit être la priorité pour un pays. Ça doit être la priorité pour un pays.
Exactement. Et Bouba, enfin avec vous.
À mon avis, je crois que c'est tout le système qu'il faut revoir. Puisque le système de l'éducation de l'enfant pose un problème. D'où aujourd'hui, vous voyez donc la singularité entre les enfants, donc même dans les écoles, hein, c'est pas seulement que sur TikTok, parce que TikTok sert effectivement à montrer tout cela. Et je crois qu'à un certain moment donné, donc le ministre de l'Éducation nationale doit prendre ses responsabilités.
Mais il les a pris, je crois.
Voilà,
que là, il
veut faire un plan. Non, mais c'est vrai, il faudra encadrer et mettre effectivement donc des barrières afin que TikTok ne soit pas utilisé par ces enfants.
Merci. Mais il ne faut pas pousser Bouba. Le bouchon pour dire que c'est à cause de TikTok.
Oui.
Non, hein,
oui.
Parce que,
merci Ahmed Lawadj. Bon courage pour ce week-end, Ahmed.
Merci. Merci
vous êtes
beaucoup.
Candidat au sénateur.
Oui, oui, oui. Je sais. Merci, j'espère.
Bah, ouais. Bah, on vous souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Bon courage.
J'espère
à vous.
Gagner. Merci.
Et bonne chance surtout.
Merci Bouba. À bientôt.
À bientôt.
Menadou Chenier, à bientôt.
À très vite.
À la réalisation, c'était Solal. On se retrouve donc demain avec autant de plaisir, vous le savez. Bilal Nedman avec Time Sport, c'est de 20h à 21h. Ensuite, c'est Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous dis à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche
on
rien.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.